matin dans le livre de Job, au chapitre 36. Job 36. Et, pas mal tout le monde était là la semaine dernière. Vous saviez que la semaine dernière, c'était partie 1. Aujourd'hui, on voit la partie 2. Dernier message sur la sainteté dans le thème du mois de novembre. Et donc, on considère, c'est notre deuxième semaine qu'on considère la sainteté de Dieu face au mal et à la souffrance. Et Job, hein, le grand livre de la Bible sur toute la question de la souffrance, c'est pas le seul. En fait, on pourrait dire les évangiles avec la venue de Christ dans ce monde maudit et toute la croix et tout ça, c'est aussi très, très, très important par rapport à la question de la souffrance. Mais on peut, sans contredire, dire qu'il y a une place spéciale à la question de la souffrance, de Dieu dans la souffrance, dans le livre de Job, n'est-ce pas? Quand on pense à ça, au livre de Job, c'est à ça qu'on pense bien souvent. On est au chapitre 36, on va lire pour commencer les versets 22 à 26. On va lire avec attention, c'est vraiment un passage précieux des Écritures qui nous exalte notre grand Dieu. Regardez ce que ça dit, Job 36, 22. Ça sorti de la bouche d'Éliu, évidemment inspiré de Dieu. « Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Mais Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. » On va prier. Seigneur, comment tu es grand, incomparable, saint, haut, élevé. Et oui, tes voies sont insondables. Mais on te remercie que tu t'es révélé à nous dans ta parole et que dans ces derniers temps, tu t'es révélé à nous par ton Fils. On te remercie, Seigneur, qu'on peut te connaître. On peut être en communion avec toi. On peut, dans n'importe quelle circonstance, s'accrocher à toi. On peut avoir une relation avec toi. On te remercie pour ça, Seigneur, que même dans la pire des souffrances, face au plus grand mal sur cette terre, on n'est jamais seul. Seigneur, on prie que tu sondes nos cœurs. Alors qu'on ouvre ta parole ce matin, on veut te rencontrer. Alors, toi, Saint-Esprit du Dieu vivant, fais ton œuvre comme juste toi peux le faire au milieu de nous. Et Seigneur, merci que tu nous donnes ce temps où est-ce qu'on peut s'arrêter. On veut le faire en silence devant toi, être enseigné par toi-même ce matin. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. La sainteté de Dieu, on a parlé pendant tout le mois de novembre, mais spécialement depuis la semaine passée, dans la question de la souffrance, la fameuse question du mal et de la souffrance. Et en passant, il y a une différence, c'est pas un synonyme. Le mal, c'est ce qui activement est fait aux autres, OK? On fait du mal à quelqu'un. La souffrance, c'est lorsqu'on subit le mal, c'est passif. Il y en a un qui est actif, l'autre est passif. Et là ici, j'aimerais que vous remarquiez, je ne veux pas qu'on passe à côté de ce qui est évident dans les versets qu'on a lus. C'est-à-dire que c'est une des plus puissantes et solennelles et très claires déclarations de la sainteté de Dieu, même si le mot saint n'est pas là. Parce que c'est quoi que ça dit? Que Dieu est grand. Qui peut enseigner comme lui? Qui peut lui prescrire ses voies? Hein? Puis il doit être exalté, célébré par les hommes. Sa grandeur nous échappe, ses années sont impénétrables. Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu est saint. Dieu est incomparable. C'est ça la sainteté de Dieu. Donc, ça ne prend pas le mot saint en tant que tel, mais ça déclare sa sainteté. Comment Dieu est incomparable. Personne ne peut être comparé au Dieu qui est révélé dans la parole de Dieu. Mais, voyez-vous, dans le passage qu'on vient de lire, c'est très important parce qu'il y a comme un point culminant qui est atteint là. Les conflits avec les trois premiers amis de Job sont passés. Là, c'est le dernier, le petit jeune qui parle, Éliu. Et Éliu n'a pas été repris pour ce qui a été dit, c'est-à-dire que Dieu n'a pas dit « t'as mal parlé de moi ». Parce que dans le fond, il amène, bon, puis c'est pas parfaitement, c'est malhabilement, il y a certaines choses qu'on peut reprocher aussi à Éliu, mais on peut lui dire, on peut lui reconnaître que, dans le fond, il disait à Job, regarde à Dieu, considère-le. Puis c'est là exactement ce qu'il dit là. Autrement dit, Job considère le Dieu saint, le Dieu qui est incomparable au milieu de ta souffrance. Et c'est ça, dans le fond, l'essence de la sainteté de Dieu, c'est que Dieu, bon, dans toutes les circonstances, mais spécialement dans la souffrance, il est incomparable. Dieu est un refuge, Dieu est celui qui est, qui donne, qui fait ce que personne d'autre peut faire. Dans toutes circonstances, mais spécialement face au mal et à la souffrance. Et bien sûr, c'est une des grandes leçons du livre de Job. Mais ici, on voit, il y a des questions qui sont posées. Hein? On a un message avec des questions. Rappelez-vous, la semaine passée, on a posé une première. On en pose encore deux autres aujourd'hui. Et ici, c'est des questions qui montrent comment Dieu, il dit, qui serait enseigné comme lui? C'est une question rhétorique. Autrement dit, personne ne peut enseigner comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il est saint, il est incomparable. Et les questions comme, qui ose lui dire, tu fais mal? Personne, parce que Dieu, c'est lui qui est souverain. Qui, voyez-vous? C'est vraiment pour montrer comment Dieu est incomparable. Et donc, avec des questions, il y a une révélation de qui Dieu est ici. Et c'est un peu la même chose pour nous. Vous rappelez, j'ai dit que les questions qu'on considère dans les deux messages, celle de la semaine dernière, puis celle aussi, les deux aujourd'hui, c'est des questions qui instinctivement montent au cœur de l'homme lorsque le mal et la souffrance frappent. Rappelez-vous celle-là de la semaine dernière? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse, on a vu, hein, il faut répondre à la lumière de la révélation de Dieu. Pourquoi moi? Parce que quand on comprend qui Dieu est, pourquoi moi? Ben, si Dieu est souverain, si Dieu est bon, si Dieu est saint, pourquoi moi? Parce que Dieu fait quelque chose dans ma vie. Amen. Je ne le comprends pas tout, puis tu vois, parce que Dieu est bon. Ah oui? Oui. Même dans le mal et la souffrance, Dieu est toujours bon et il veut se révéler à moi. Il veut que j'expérimente sa bonté dans cette souffrance. Bon, je ne vais pas tout à revenir sur le message de la semaine passée, mais j'avais en un mot dire que Dieu donne tout le sens à notre souffrance, à l'expérimentation qu'on peut avoir du mal et de la souffrance dans notre vie. À cause qu'il y a la croix du calvaire, à cause qu'il y a la résurrection, c'est ça qui donne un sens, que Dieu lui-même a pris le mal, puis avec la résurrection, il est vivant, il nous donne le bien. Ça nous donne un sens dans toute cette souffrance qu'on peut subir. Maintenant, aujourd'hui, dans ce deuxième message, on voit les deux autres questions. Après, c'est de demander « Pourquoi moi? » C'est quoi l'autre question qui instinctivement ressort dans le cœur de l'homme face à la souffrance? Il est où Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Puis la troisième question, c'est, est-ce que je suis capable de passer au travers? Est-ce que je peux supporter ce mal et cette souffrance? Donc, on commence avec le texte qu'on vient de lire, avec notre deuxième question aujourd'hui. Deuxième question pour les deux messages, là. Où est Dieu dans le mal et la souffrance? Et ici, dans le fond, c'est quoi qu'on vient de lire? Dieu est grand. Personne ne peut lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Tu fais mal et tout ça. » Il faut se souvenir de l'exalter. Dieu est grand, sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années sont impénétrables. Qu'est-ce que ça nous dit ici? On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas mettre Dieu dans une petite boîte et dire « Ok, quand il arrive quelque chose, je vais tout comprendre au sujet de Dieu. » Non, c'est impossible, ok? Mais là, justement, cette sainteté de Dieu, le fait que Dieu est incomparable, qu'on ne peut pas le mettre dans une petite boîte parce que c'est Dieu qui est Dieu et est plus grand que tout, là où c'est important, où c'est crucial, c'est dans le fait que Dieu offre une réponse unique, incomparable, hors de l'ordinaire, à tout ce qui est dans le monde. Les gens, souvent, ils vont accuser Dieu. Quand la question « Où est Dieu? » Souvent, il y a dans le cœur, il ressurgit un ton d'accusation. « Il est où Dieu? » Comment ça que Dieu fait ça? Puis, OK? Puis, dans notre cœur, l'intention qui est manifestée, c'est, ben si Dieu était là, ça serait pas si mal que ça. Ça irait mieux. Si Dieu était bon, puis on explore un peu ça, cette fameuse question, où est Dieu? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le Dieu de la Bible, tel qu'il est révélé dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais spécialement révélé dans l'œuvre et la personne de Christ, a une réponse parfaite, satisfaisante, complète, qui vraiment satisfait l'âme. Et vraiment, tout se joue là. Si Dieu est Dieu, il a la réponse. Il est la réponse au mal et à la souffrance. Et ce que j'aimerais qu'on voit là, ce matin, c'est que Dieu n'a pas juste une réponse académique. Une réponse pour nous donner de l'information. C'est une réponse salutaire. C'est une délivrance. Dieu a une réponse qui change la vie. Dieu a une réponse qui libère, qui donne la vraie liberté. Ça, c'est, on ne voit pas ça avec les philosophies, avec les religions de ce monde. Dieu, encore là, on voit, il est incomparable parce que sa réponse, ce n'est pas juste une réponse comme on pourrait s'attendre à ce qu'un grand philosophe ou un grand sage nous donne. Non. Dieu nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos moyens, mais avec la tentation, il va aussi pourvoir le moyen d'en sortir. Dieu a une porte de sortie, puis même plus que ça, non seulement dans nos circonstances, mais même dans nos pensées, comment qu'on pense par rapport à ça. Vous savez que souvent, ce qui est le plus dangereux dans le mal et la souffrance, c'est pas nécessairement le mal et la souffrance qui nous arrive, c'est comment qu'on pense par rapport à ça. On s'inquiète, on a peur, on a ci, puis on devient esclave de toutes sortes de choses en dedans de nous qu'on s'imagine qui peut arriver, puis tout ça, puis ça nous fait encore plus de mal que le mal actuel qui nous arrive. Et je pense que la situation qu'on vit est un bon exemple de ça. Les gens sont déprimés, il y en a qui ont perdu le goût de vivre, qui veulent décrocher, puis tout ça. C'est la réponse, c'est le combat des pensées. Et ces pensées-là ont besoin d'être amenées captives à l'obéissance de Christ. Maintenant, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que nulle part ailleurs dans le monde, on trouve les réponses comme celles que Dieu nous donne. Parce que c'est au-delà des réponses qu'on regarde à se demander les questions qui remontent dans nos cœurs. Dieu va au-delà de ça, comme j'ai dit, c'est plus que juste de l'académique. C'est Dieu qui nous rencontre. Il est la réponse. Dieu a une grâce qui nous atteint, qui est capable de nous faire jouir du bonheur, de la grâce au milieu de la souffrance, qui est capable de nous délivrer de nous-mêmes, nous faire passer au travers des souffrances qu'on peut vivre. C'est ça la sainteté de Dieu dans la souffrance. C'est là que Dieu est dans la souffrance. Parce que j'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu lointain. C'est pas un Dieu impersonnel. C'est pas un Dieu qui se fiche. Je ne veux pas prendre des mauvais mots, là. C'est pas un Dieu qui se fiche de notre situation. Mais au contraire, c'est un Dieu qui s'approche de l'homme pour le secourir. Je pense que la semaine passée, j'ai parlé de l'exemple Israël en Égypte. Il a entendu leur cri, puis il est descendu, puis il a envoyé Moïse. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il n'est pas resté au ciel. Il a envoyé son Fils unique pour donner la délivrance. La grande délivrance dont on avait besoin. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il est personnel. Et ça, c'est spécialement précieux lorsque nous sommes au milieu de l'épreuve. Dans le mal, dans la souffrance. Maintenant, je vais poser une question importante sur la question « Où est Dieu? » Parce que la vérité, quand arrive la souffrance, alors Dieu n'est pas aussi près, j'aurais pensé. Rappelez-vous, j'ai parlé de frotter une lampe, puis des fois, on a cette pensée-là. « Ah, là, j'ai une épreuve, je vais frotter la lampe, puis pouf, Dieu va sortir, puis il va tout régler mes problèmes. » Pourquoi ça ne se passe pas de même? Pourquoi ça ne se passe pas de même? Je pense que une question légitime, si on la pose humblement, si on la pose rebellement, il y a un problème avec notre attitude, mais on peut se demander pourquoi Dieu n'est pas là, direct, proche. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il a décrété lui-même. Vous savez, avant la chute, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a donné une promesse avant la chute. On le voit peut-être, ah, les promesses de Dieu. Ben, une promesse qui... C'est accompli, mais savez-vous, c'est malheureux, là, mais ça a été même dit. Le jour où vous allez manger du fruit défendu, vous allez mourir. C'est une promesse. Dieu a dit, c'est demain que ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé demain? Absolument.
Ouais.
Et donc, c'est quelque chose de fondamental qui s'est passé là. L'idée, c'est que la mort, c'est la séparation. Dieu a dit, le jour où vous allez pécher, la mort va s'installer, la séparation va s'installer. Donc, pourquoi il est où, Dieu? Pourquoi il n'est pas là? À cause du péché! Amen. À cause de la mort! Parce que Dieu a dit que ça allait être de même!
Mm-hmm.
Ça fait partie d'être dans un monde déchu comme on est. C'est pour ça que Dieu n'est pas là, tout proche, puis à cause du péché, parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort, puis le jour où est-ce qu'on allait laisser le péché rentrer dans le monde, la mort, la séparation allait s'installer. Et ça, ça s'étend à toutes nos relations. Vous savez, la mort dans nos relations, c'est très réel. C'est-à-dire, on ne s'entend pas comme on devrait, il y a des chicanes de couple, il y a des chicanes de famille. À cause, c'est la mort, c'est la séparation. OK? Mais, là où c'est le plus crucial, le plus important, il y a le plus de répercussions, c'est la séparation avec Dieu. Pourquoi le monde va mal? Parce qu'on est séparé d'avec Dieu. C'est ça le grand problème du monde. C'est qu'on est séparé de Dieu à cause du péché. Donc, le mal, la souffrance, ça nous met face à la dure réalité ou la réalité crue, directe, sans fla-fla, de la chute. On est déchu. On est dans un monde brisé. C'est ça que ça fait le mal et la souffrance. Ça nous le remet dans la face. Pourquoi? Afin qu'on cherche celui qui est la délivrance. Vous dites, il est où Dieu? Ben Dieu, ça dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Dieu permet le mal et la souffrance parce qu'on a des cœurs endurcis, puis que dans la souffrance, Dieu veut qu'on cherche. Oui, le péché amène la séparation. Oui, le péché amène la mort. Mais même dans cette séparation, dans cette mort, il y a encore de l'espérance. Si on cherche Dieu, on va le trouver. On le témoignait tantôt, n'est-ce pas souvent à travers l'expérience de la souffrance, de la difficulté, que beaucoup ici d'entre nous ont trouvé le Seigneur pour le salut de leur âme?
Amen.
N'est-ce pas vrai aussi que dans nos vies, quand on a tendance à s'égarer et que nos cœurs s'endurcissent, n'est-ce pas aussi de cette façon-là, dans la souffrance, qu'on se tourne vers Dieu puis qu'on peut expérimenter sa grâce suffisante, sa délivrance? Donc Dieu est là, il est où Dieu? Il est là, mais à cause du péché, il est séparé par défaut, et donc c'est en le cherchant qu'on va le trouver. D'où c'est important d'avoir cette disposition, l'esprit brisé, le cœur contrit, ou vice-versa. Okay? Vous savez de quoi je parle, là, dans Psaume 51, dans Ésaïe 57, esprit brisé, cœur contrit. Il me semble que c'est ça. Ou esprit contrit, cœur brisé. En tout cas, excusez-moi, je vais demander à David et à Isaïe là, d'être patients là, quand je vais les voir au ciel, là, ils vont comprendre. Je me trompe tout le temps avec les deux. Mais ok, la disposition, mais pas juste ça, pas juste d'être contrit puis brisé. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Évidemment, ça c'est un grand verset qu'on prend pour le salut, parce que dans le contexte, dans Romains 10, c'est pour le salut. Mais savez-vous que c'est encore vrai pour un enfant de Dieu? N'est-ce pas ce que tantôt je vous ai cité? Le jour où j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Il m'a fortifié. Il m'a rassuré, il a fortifié mon âme. Quand on invoque le Seigneur, Dieu nous promet qu'on ne sera pas confus. Dieu nous promet qu'on ne sera pas laissé à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Donc, quand on comprend ça, on voit que la souffrance, le mal, c'est le rendez-vous de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Hein? Mais c'est précieux et on doit se le rappeler. Dieu n'est pas loin, Dieu ne nous a pas abandonnés. Le péché est entre nous et Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, se laisse trouver par ceux qu'il cherche. Et juste un dernier point par rapport à ça. Le problème par rapport à la question « Où est Dieu dans la souffrance? » C'est pas que Dieu ne veut pas s'approcher de nous. Parce qu'on sait la disposition de Dieu face aux pécheurs. Dès que le péché est rentré dans le monde, Dieu déjà a donné la solution. Donc le problème, c'est pas avec Dieu, c'est que nous, on veut pas de lui. Par nature, le péché fait qu'on veut pas de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de s'approcher de Dieu humblement et de croire qu'il rémunère ceux qu'il cherche. Et c'est comme ça aussi, si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est la seule façon d'être réconcilié avec Dieu, en vous confiant dans sa provision, dans son Fils Jésus-Christ, pour le salut de votre âme. Maintenant, vous savez, un autre point important, on parle de où est Dieu dans le mal, la souffrance. Il y a une différence fondamentale entre le cœur régénéré et celui qui ne l'est pas. Parce que quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu, quelqu'un qui a été régénéré, qui a l'Esprit de Dieu qui vit en lui, face à la souffrance, son cœur soupire après Dieu. Ah, on a de la misère, puis on n'est pas parvenu, puis OK, on sait tout, là, qu'on n'est pas des exemples stellaires de tout ça, mais même malgré nous, l'Esprit de Dieu, hein, il soupire, Abba, il s'écrie Abba Père. Et c'est là que vraiment, comme enfant de Dieu, on trouve du réconfort. Parce qu'avec cet Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui soupire en dedans de nous, on sait que Dieu nous appelle à lui, on sait qu'on a un rendez-vous avec lui, on sait qu'il y a du réconfort, qu'il y a un refuge auprès de l'Éternel. Puis c'est pour ça qu'il faut prier pour les non-sauvés, pour qu'eux autres aussi arrivent à ce point-là où est-ce qu'ils sentent leur misère. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il faut que Dieu le convainque, que Dieu lui montre sa condition pour qu'il se tourne vers lui. Mais vu qu'on parle de chrétiens, savez-vous la réponse chrétienne, fondamentalement, là, à la question « Où est Dieu? » là, ben, il est à la place d'honneur. T'sais, où est Dieu dans le mal et la souffrance? Il est à la place d'honneur. Il est à cet endroit, ce rendez-vous, où est-ce que c'est le réconfort inouï, spécial, sur mesure, qu'il veut nous donner. Il est là, Dieu, dans la souffrance. Où est Dieu? Si vous êtes chrétien, Dieu est à la meilleure place qu'il ne peut pas avoir. Puis c'est un rendez-vous. Il faut aller le rencontrer. Et la pensée chrétienne, la pensée biblique, quand on considère la Bible, par rapport à où est Dieu dans la souffrance, nous amène à nous poser, là j'ai trois sous-questions, je ne veux pas vous mêler trop là, avec des questions, quand on a trois questions de base. Pourquoi moi? Où est Dieu? Puis on va se demander tantôt la troisième. Est-ce que je peux supporter ça? Mais dans la question où est Dieu, là, je vais amener quelque chose pour alimenter notre réflexion. Le fameux mal, là, tu sais, le mal dans le monde. Est-ce que le mal est vraiment mal? Parce que je vous conseille d'écouter, ceux qui n'ont pas écouté là-dessus, moi je l'avais déjà référé, mais je pense que c'était un mercredi soir. M. MacArthur a amené un excellent message sur la présence du mal dans le monde, puis est-ce que Dieu est l'auteur du mal ou tout ça, puis est-ce que Dieu le permet. Excellent message là-dessus, je vous encourage. Je pense même que, frère, je pense qu'il a été traduit en espagnol, hein? Ça se peut-tu? Oui, hein? Il est meilleur en espagnol. Vous l'écouterez en espagnol, c'est encore mieux. Non, mais la question, est-ce que vraiment le mal est mal? Est-ce que c'est aussi mal que la Bible dit? La question, c'est oui. Je veux dire, le mal, ça détruit tout, puis il est vraiment présent, puis c'est pas comme si Dieu l'a échappé. Non, Dieu, il laisse aller le mal dans le monde, puis le mal, c'est vraiment destructeur, puis ça fait des ravages. Mais, il n'aurait pas dû en être ainsi. C'est un intrus dans le monde. C'est pas le plan original de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu a créé sa création, puis nous, le chef de sa création. Et Dieu se sent pas bien par rapport au mal comme nous. T'sais, on dit, ouais, il y a quelque chose qui marche pas avec le mal. Dieu, savez-vous qu'il a le même sentiment? Bel exemple de ça. Jésus, quand il était sur terre, il a été face au mal. C'est un homme de douleur, accoutumé à la souffrance, OK? Un homme, ouais, en tout cas, quelque chose de même. Puis dans Jean 11, OK, avec le fameux chapitre où est-ce qu'on voit la résurrection de Lazare, et ceux qui connaissent l'évangile de Jean, là, on arrive au pic, parce que là, ça c'est comme le gros coup, où est-ce que là toutes les autorités vraiment les deviennent, sont vraiment décidées à faire mourir Jésus. C'est le dernier miracle, qui, comme on pourrait dire, qui met le dernier clou dans le cercueil. Mais on apprend quelque chose d'important par rapport à ça. Quand Jésus, vous savez, bon, il attend, puis là, Lazare, il meurt, puis là, ça fait 4 jours, il était déjà en décomposition, vous connaissez l'histoire. Puis là, ben, quand Jésus arrive sur les lieux, il va là, puis on sait, il y a le fameux verset. C'est quoi le plus court verset de la Bible? Quelqu'un veut du chocolat? C'est le verset facile? Jésus pleura. Bon, là, on va faire une tournée de chocolat. Mais dans le même passage, à deux reprises, notre Bible traduit que Jésus a frémi en lui-même. Et le mot qui est utilisé, c'est un mot en grec qui est fort, puis l'idée de frémir, c'est que c'est pas juste... Donc, moi, quand je disais ça, je me disais juste qu'il y a une émotion, puis tout ça, puis un peu dans le sens de pleurer. L'idée, c'est de la colère. Ouais.
L'idée, c'est que ça marche pas, c'est pas supposé d'être de même. Il était irrité. Pourquoi? Parce qu'il voyait les ravages du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, le gars est mort, mais aussi tout ce que ça fait autour, les relations humaines, puis tout ça, puis c'est ça qui se passait à ce moment-là. Donc, ça nous montre, le mal, oui, il est mal, vraiment. Jésus le confirme. Mais c'était pas supposé d'être de même. C'est un intrus, c'est pas le plan original de Dieu, il est rentré par la ruse de l'ennemi. Donc, ça répond à cette question. Deuxième question, sous-question. Parce que souvent, quand on se demande si Dieu est bon, OK, le mal, oui, vraiment, c'est mal, puis Dieu n'est pas content, pas plus que nous autres par rapport à ça. Donc, c'est pas comme si Dieu prend plaisir au mal, non. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, quand on se demande si Dieu est là, Dieu, es-tu bon?
Amen.
Dieu, es-tu vraiment bon? Parce que quand on se demande si Dieu est là, si Dieu était bon, il me semble qu'il serait plus proche. Comprenez-vous? C'est ça que je vous dis, ça vient avec la question, est-ce que Dieu est bon? Où est Dieu? Et ça, j'ai effleuré la semaine passée, mais ça fait écho à ce qui est arrivé dans le jardin. Parce qu'est-ce que Dieu a voulu mettre de l'avant en premier dans le livre de la Genèse? Qu'il est bon. Tout ce qu'il a créé est bon, et l'homme et la femme sont le chef de sa création, et c'est très bon. Donc, tout ce que Dieu a fait est bon, très bon. Et qu'est-ce que Satan dit? Ah, Dieu, est-ce que vraiment... Il a voulu mettre en doute la bonté de Dieu. Ah, Dieu essaie de vous cacher quelque chose. Dieu vous empêche de vivre au maximum, le plein potentiel que vous avez. Donc, il a mis en doute la bonté de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, à la question « Est-ce que Dieu est bon? » Sans équivoque, la réponse c'est oui. Pourquoi? Parce quel autre Dieu, quelle philosophie nous montre que Dieu a pris tout le mal sur lui-même, l'a absorbé, a pris la colère, a pris tout ce qui va avec le péché, l'a pris sur lui-même. Puis ça n'a pas fini là. Il est allé dans le tombeau, il a ressuscité, il a vaincu la mort, il a tout vaincu ses ennemis. Donc non seulement il a pris le mal, mais il donne tout le bien. Je veux dire, tu ne peux pas avoir plus bon que ça, là. Donc, comme je le disais la semaine passée, ne laissez jamais, jamais Satan, vos propres pensées, le monde, vous convaincre que Dieu n'est pas bon. Parce que Dieu est bon. Puis si vous avez la misère à le croire, contemplez la croix. Ça va vous rappeler comment Dieu est bon. Maintenant, troisième question. Est-ce que Dieu est tout puissant? Est-ce que Dieu est vraiment capable de s'occuper du problème du mal puis de la souffrance? Là aussi, la question, la réponse est un retentissant oui. Mais là, il dit, oh, t'as un peu, ouais, mais t'as pas vu mon affaire, ça vire pas comme j'aurais voulu. Donc, à la question, est-ce que Dieu est tout-puissant, est-ce que l'idée, est-ce que je peux lui faire confiance? Si Dieu est tout-puissant, il est capable de s'en occuper, dans le fond, je peux-tu lui faire confiance?
Amen.
Mes amis, les questions que je pose là sont fondamentales, parce que, OK, la question où Dieu est, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe? On s'entend, là, c'est la différence entre un athée et un croyant. La question, est-ce que Dieu est bon? C'est son caractère. Puis la question, est-ce que Dieu est tout-puissant? C'est sa capacité. Fait que là, si on n'a pas la bonne réponse à tout ça, là, on n'a plus un Dieu digne de confiance, puis on n'a plus le Dieu de la Bible. Pour ça, je vous le dis, c'est pas périphérique les questions qu'on pose aujourd'hui. Elles sont fondamentales. Mais mes amis, la réponse est tellement forte et elle est résolue parfaitement dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Toutes ces questions-là. Est-ce que Dieu existe? Oui! Il est venu sur terre. On va le célébrer bientôt. Il s'est incarné.
Amen.
Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui vit dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu existe? Absolument. Est-ce qu'il est bon? J'ai parlé de la croix. Est-ce qu'il est tout-puissant? Oui! Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu ses ennemis. Puis maintenant, il donne la vie à quiconque s'approche de lui par la foi. Parlez-moi de toute puissance. C'est tout révélé en Jésus-Christ. Pour ça, je vous dis, méditons juste là-dessus. La croix, la résurrection, tout est là. Et je veux juste dire une dernière chose par rapport à ça. On a un peu poussé, pas le plus à fond, mais quand même, la question de où est Dieu dans la souffrance, que ces choses ne restent pas juste sur les tablettes de notre tête, mais qu'elles soient gravées avec le burin du Saint-Esprit sur les tables de notre cœur, mes amis. Parce que c'est là qu'est le réconfort. Quand ça va mal, c'est de ça qu'on a besoin.
C'est à ça qu'on s'accroche. C'est pas juste des choses cérébrales que Dieu nous donne, c'est des choses pour notre cœur. Il nous rassure, il nous fortifie dans notre âme avec ces choses. Vous savez pourquoi? C'est une méchante bonne réponse à ceux qui nous demandent de l'espérance qui est en nous. N'est-ce pas? Ça amène à la dernière question. Pourquoi moi? Où est Dieu? Maintenant, est-ce que je peux supporter tout ça? Je peux-tu m'en sortir? On s'en va dans Job 42. Ça a fermé, peux-tu checker, moi? Ou ça m'a pris en photo, je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Si tu en. Est-ce que t'avais-tu. Ça enregistre?
Oui.
OK, bon. Job, on s'en va au chapitre 42. Excusez-moi. Ah, oh, la technologie, c'est-tu distrayant? Job 42, verset 1 à 6. Ben, ça, c'est ce qui est le plus connu dans le livre de Job. 42 1 à 6, c'est la repentance de Job, son humiliation devant l'Éternel. Donc, on commence au verset 1. Job répondit à l'Éternel. Ça, c'est après que Dieu s'est révélé dans la tempête et tout ça. Et donc, voici ce que Job dit. « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et là, ici, c'est une petite parenthèse, c'est Job qui se rappelle des paroles de l'Éternel. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes pensées? » Et Job continue. « Oui, j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Encore, Job se rappelle ce que l'Éternel a dit. « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. » Et là, Job, encore, il revient. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Donc, à la question du mal, est-ce que je peux le supporter? Encore là, la réponse est oui, parce que si Dieu est Dieu, puis s'il est là, je peux. Mais la question, c'est est-ce que je suis disposé à ça? Et on a ici la réponse de c'est quelle sorte de disposition qu'on devrait avoir? L'humilité. Job, ce qu'il avait le plus besoin, c'était pas d'avoir toutes les réponses à ses questions, parce qu'il les a pas eues. Puis d'ailleurs, quand Dieu parlait à Job, c'était pas pour lui donner des réponses à ses questions, c'était pour le placer là où il devait être devant Dieu humblement. Puis dire, Dieu, t'es Dieu. Parce que, regardez ce qu'il dit, dans le fond, rien s'oppose à tes pensées. Hein? Tu peux tout, rien s'oppose à tes pensées. J'ai parlé sans le comprendre de choses qui, de merveilles qui me dépassent. Mon arrêt avant temps. Voyez-vous, Dieu avait amené Job au point où est-ce qu'il était humblement devant Dieu en disant, Dieu, tu peux faire ce que tu veux, puis j'ai rien à redire. C'est là qu'était la délivrance. OK? C'est là qu'il était capable de supporter ce que Dieu lui avait envoyé. Et on sait que c'était pas mal extrême. Et Job, ici, avec sa confession, on voit c'est quoi la confession? C'est acquiescer la réalité des choses. Quand on confesse, on dit à Dieu, on confesse à Dieu les choses telles qu'elles sont. Dieu, t'es plus grand que moi, puis je peux rien t'en dire. Dieu, je suis un pécheur, puis évidemment que je suis coupable. Confesser, c'est ça. Confesser, c'est se mettre d'accord avec Dieu. Puis Dieu, c'est l'ultime réalité. Donc, quand tu te mets d'accord avec Dieu, tu te mets d'accord avec la réalité. OK? Tu n'es plus dans ton petit monde imaginaire. Où est-ce que tu penses que tu devrais avoir mieux parce que tu souffres? Où est-ce que tu penses que Dieu n'est pas là parce qu'il ne t'aime pas? Ça, c'est un monde imaginaire. Ce n'est pas la réalité. Donc, l'humilité, c'est quand on arrive au pied, pas d'égalité, mais où est-ce qu'on arrive au diapason avec Dieu? Où est-ce qu'on retombe en contact avec la réalité? Laissez ça rentrer dans votre cœur. Pensez-y. Quand on est dans le trouble, qu'on s'en fait, qu'on devient tout, on n'est pas en contact avec la réalité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en contact avec celui qui est l'ultime réalité. On est dans un monde imaginaire où est-ce qu'on s'imagine toutes sortes de choses qui ne sont pas en rapport avec ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. C'est pour ça, est-ce que je peux le supporter? Si tu t'humilies, oui. Si tu t'enorgueillis, non, tu vas crouler sous le poids de ta propre réponse à ce qui t'arrive. Donc, Job, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le fond, il reconnaît que Dieu est tout-puissant, qu'il est souverain, mais aussi qu'il y a des plans bienveillants, parce que c'est ça qu'on voit, hein, verset 3. « Oui, j'ai parlé, sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne sais quoi. » Dieu a un plan tellement grand,
un plan bienveillant, un plan rédempteur, ça nous dépasse, mais c'est du quoi? On peut y faire confiance parce que c'est un plan rédempteur, c'est un plan bienveillant. C'est exactement là que Dieu voulait l'amener. Puis on vit en ce moment, un moment historique, n'est-ce pas? On peut tous entendre que 2020 est une année historique dans l'histoire de l'humanité. Où jamais comme auparavant, je suis capable de passer au travers, ça. Vous posez la question, moi je me l'ai demandé, coudonc, là. Vous savez quoi? Dieu m'a amené pas mal assez souvent, puis vous l'avez entendu souvent à travers mes messages. Dieu m'a humilié à pas mal plusieurs reprises, de plusieurs manières. Pas parce que j'avais besoin d'avoir toutes les réponses, d'avoir tout ce qui se passait, mais parce que Dieu a un plan bienveillant, parce que Dieu est souverain. Puis quand tu fais partie de ce plan-là, ben, faut juste que tu t'humilies devant Dieu, puis tu le laisses être Dieu, puis toi, tu te places dans ta place de créature, puis on est bien. Et quoi que Satan voudrait nous faire croire que si on ne s'humilie pas, si on est orgueilleux, on va être misérable? C'est l'inverse. Quand on s'enorgueillit, c'est là qu'on est misérable. Regardez des gens qui résistent face à la souffrance pour mal, c'est les gens les plus misérables qu'il n'y a pas sur terre. Puis d'ailleurs, regardez Job avant qu'il s'humilie. Ça n'allait pas bien son affaire. Juste, je vais amener un point là-dessus. Les réponses erronées, okay, qui ne sont pas réalistes, autrement dit, qui ne sont pas en lien avec Dieu, qui est l'ultime réalité, OK? Tout le monde imaginaire de nos pensées. Le problème avec ça, c'est qu'on... Écoutez, là, puis on voit ça aussi beaucoup. Quand Dieu, tu vas avoir réglé le problème de ces méchants-là, là-bas, puis là, fill in the blank, là, les méchants qui nous disent de mettre des masques, les méchants qui ont peur, les méchants qui sont rebelles, qui ne veulent pas mettre de masques, les méchants qui sont rebelles, qui devraient avoir... C'est toute la faute. C'est quoi? C'est exactement ce qui est arrivé dans le jardin. Qu'est-ce qui est arrivé une fois que le péché est arrivé? La faute de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. C'est tout de l'orgueil. OK? Puis, je ne sais plus c'est qui, Paul, c'est qui a dit l'enfer, c'est les autres? Je sais que c'est un Nietzsche.
Jean-Paul
Sartre. L'enfer, c'est les autres. OK? C'est pas biblique, ça, là. Non? C'est le fruit premier de la chute. C'est la faute des autres. OK? Ben, c'est la pensée humaine. Jean-Paul Sartre a bien décrit c'est quoi le... Mais c'est d'accuser les autres. Mes amis, tant qu'on reste là, il n'y a aucune délivrance. Il faut qu'on sorte de cette pensée-là et d'arriver, comme je viens, à reconnaître, OK, je suis la partie la plus importante du problème à régler. Oui, les autres ont des problèmes, mais Dieu il me fait arriver à ce point-là pour que moi, je m'humilie, moi, sur la poussière et sur la cendre. Je suis partie du problème. Comprenez-vous? Et là, il y a une délivrance, là, il y a une liberté. Quand on arrive à dire avec Job, quand on entonne avec lui, c'est pourquoi je me condamne, pas les autres, sur la poussière et sur la cendre. Comprenez-vous ce qui arrive ici? Vraiment, la réponse à cette question sur le mal, puis où est Dieu dans tout ça? Et pour la réponse à la fameuse question, est-ce que je peux le supporter? Je vais vous l'illustrer comme ça. Pour sortir par la porte de la délivrance de Dieu, il faut d'abord rentrer par celle de l'humilité. Si je veux avoir la délivrance de Dieu, il faut que je rentre dans la salle de délivrance par la porte d'humilité. Puis là, Dieu va me montrer où est la porte de sortie. Sinon, je ne suis même pas à la bonne place. Là. Je veux dire, je ne peux pas trouver la porte de sortie. Je ne suis même pas là où Dieu veut que je sois. Il n'y a pas de délivrance. Donc, il faut rentrer par la porte d'humilité. Puis là, on va pouvoir trouver la délivrance que Dieu donne. Je vais vous amener un point important là-dessus. C'est un peu philosophique, là, mais écoutez. On est idolâtre, n'est-ce pas? On aime ça mettre idolâtre. Puis on aime ça mettre la faute des autres, puis tout ça. Puis... Mais écoutez bien, savez-vous qui ont été les plus grands meurtriers dans l'histoire de l'humanité? Les idéalistes. Les gens qui avaient un rêve, une utopie. Mm-hmm. Un monde meilleur. Des humanistes qui... L'ultime idolâtrie, hein? Faire un monde à leur image. Mais regardez, Mao, Hitler... Marx, c'était tous des idéalistes utopiques qui voulaient faire un monde à leur image. Qu'est-ce que ça a donné? La mort! C'est catastrophique! Pourquoi? Parce qu'aux fameuses questions, je peux-tu m'en sortir? Ah oui, je peux m'en sortir, puis on retrousse les mains. C'était tout de l'orgueil, ça partait pas avec
la reconnaissance de la réalité, il n'y a pas, le salut vient de l'Éternel, il n'y a pas de délivrance en dehors de Dieu. Donc, même avec les meilleures intentions du monde, ce que ça va donner, vous le savez, ça va ça, c'est les gens les plus dangereux. Et c'est ça que ça donne. Ça revient à ce que j'ai souligné auparavant, on a déjà parlé, l'auto-rédemption. Si on veut s'en sortir nous-mêmes, l'auto-rédemption, c'est de l'orgueil. Ça ne va pas mener nulle part. Ça va juste rempirer les choses. Pour ça, je dis, le plus grand obstacle à la délivrance, à la liberté dans ma vie, c'est moi. Il faut que je m'humilie devant Dieu, que j'arrête de mettre le blâme sur les autres. Puis si je peux supporter, ça va aller mieux si l'autre... Non, si je m'humilie devant Dieu, Dieu va me donner la grâce. Sa grâce est suffisante. Regardez comme avec Paul, quand il a dit ça, que la grâce de Dieu était suffisante, c'est quand Dieu l'a amené au bout de lui-même, puis s'est rendu compte, « Hey, tu peux pas, toi-même, hein, t'as un écharpe dans la chair, t'aimerais donc t'en débarrasser, mais ma grâce te suffit. Paul, t'as pas besoin d'avoir les choses comme tu veux, t'as juste besoin de me faire confiance. Laisse-moi être Dieu, puis toi, tu vas voir, tout va bien se passer. Tant qu'on n'arrive pas à ce point-là, on va être misérable. » Et Dieu en permet des écharpes dans notre chair. Oh oui, mes amis. En passant à des échanges, ah, c'est une maladie. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails de ce passage-là, mais ça dit un ange de Satan pour me souffler, un messager de Satan. Ah, ça peut être une maladie, ça peut être aussi une personne. Des gens qui sont difficiles, mais tant que nous, on ne s'humilie pas. Parce que quand c'est une personne, on dirait que c'est plus facile à blâmer. Comme dans le jardin. Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, puis c'est le serpent, puis c'est ça. Puis, mais non, tant que nous, on ne s'humilie pas, qu'on ne voit pas que nous, on fait partie du problème, il n'y aura pas de délivrance. Maintenant, je vais amener un point pour conclure tout ça ce matin. Très important. Lorsqu'on arrive au point comme avec Job, où est-ce qu'on s'humilie, puis que on reconnaît que la seule façon de s'en sortir, c'est de s'humilier devant ce Dieu qui contrôle tout, qui sait tout, oui, qui est là, donc, OK? Il y a une chose que ça va produire, et c'est ce que je veux qu'on considère ensemble en terminant ce message. On parle de Dieu, on a parlé de la foi, de faire confiance à Dieu. Savez-vous que lorsqu'on arrive au point où est-ce qu'on a les réponses à ces questions-là qui crient dans notre cœur, on va voir ce dont on a besoin face au mal puis à la souffrance, le courage. Le courage. Le courage qui vient lorsque Dieu nous a rencontrés. Parce que, comme je l'ai dit, c'est plus que juste des réponses à des questions. Lorsque Dieu nous a rencontrés, on dit « Pourquoi moi? » Parce que Dieu m'aime. Il est où Dieu là-dedans? Il est à la meilleure place qu'il soit, en plein, là, dans l'épreuve où tu as besoin de le trouver. Puis est-ce que je peux le supporter si tu t'humilies? Oui. Lorsqu'on a passé par là, on a le courage de la foi. On a le courage qui vient du fait qu'on croit que Dieu transforme le mal en bien. Donc, c'est un peu le courage comme dans le psaume. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Comprenez-vous? Si j'ai les réponses dans mon cœur à ces questions-là, j'ai plus peur. J'ai le courage de la foi. Et ça, on en a besoin. Beaucoup, on parle de témoignage. Ah, on veut être un bon témoignage. N'est-ce pas? On entend ça. Mais un témoignage pour qui? Puis un témoignage de quoi? Le témoignage, c'est pas notre témoignage. Les gens n'ont pas besoin de notre témoignage. Parce que c'est pas très reluisant. Je veux dire, moi, les gens, s'ils n'ont pas mon témoignage, ça ne me dérange pas pantoute, parce que je veux dire, je ne suis pas stellaire puis un super héros de la foi, là. Mais mon Dieu! Oh, lui, j'espère que les gens vont voir son témoignage. Comme avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ouais, ils ont eu le témoignage de quel Dieu qui délivre de la fournaise ardente. Ou avec Daniel qui délivre de la gueule des lions. Ça, c'est du témoignage, mes amis. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin d'avoir, le courage de la foi. Où est-ce que Dieu peut défendre lui-même son témoignage? Puis c'est ça que les gens ont besoin de voir. Des chrétiens qui ont le courage de leur conviction puis qui croient que Dieu, encore en 2020, rémunère ceux qui le cherchent, que Dieu encore protège, que Dieu encore s'occupe de ceux qui se confient en lui, que Dieu non seulement transforme le mal en bien, mais qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment.
C'est de ça qu'on a besoin. Parce que savez-vous quoi? Comme Job, on n'aura pas toutes les réponses au pourquoi de notre vie. On a posé la question hier, pourquoi? Pas hier, la semaine passée. Pourquoi dans les épreuves? Pourquoi moi? Puis, OK, c'est légitime, c'est quoi? Il y a des affaires qu'on ne saura jamais. De toute façon, on ne pourrait pas comprendre. Mais la question, c'est si Dieu est saint, si Dieu est incomparable, si Dieu est le Dieu qui dit être, qui est digne de confiance, puis à cause de ça, peu importe ce qui arrive, je peux m'accrocher à lui pour avoir du courage. Puis si vous vous demandez comment, non seulement réfléchir sur la croix, mais on arrive au temps de réfléchir sur l'incarnation, Dieu qui est venu à nous-mêmes, sur la rédemption pour venir accomplir la grande délivrance. L'ascension, il est maintenant à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans une position de complète autorité sur toutes les dominations, toutes les principautés. Pensez à Jésus-Christ et à toute l'œuvre qui est révélée en lui, mes amis. Ça, ça donne le courage qui n'est pas basé sur moi, puis d'essayer de me... Mais sur Dieu, puis son œuvre parfaite, c'est un fondement inébranlable. Est-ce que tu connais ce Dieu ce matin? Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce qu'il y a une différence dans ta vie parce que tu connais ce Dieu-là? Mes amis, les gens n'ont pas besoin d'entendre des chrétiens qui ont des belles paroles sur leur Dieu. Ils ont besoin de voir c'est quoi ce Dieu-là change dans la vie de ces chrétiens-là. Plus que jamais. Parce que les gens, là, en ce moment, là, ils cherchent et ils ne savent pas où se tourner. Puis il y a bien des gens qui peuvent dire qu'ils ont ci et qu'ils ont ça. C'est sûr, on est sauvés par la foi, je veux dire. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils vont voir qu'ils vont croire ultimement. Parce que même quand Jésus a fait des miracles, la majorité d'Israël l'a rejeté. Mais je veux dire, c'est pas juste des belles paroles puis juste les belles choses qu'on a besoin de dire. Les gens ont besoin de voir. Puis nous aussi, comme puis d'ailleurs, quand on se rencontre à l'église, on a besoin de ça, de s'encourager à l'amour puis aux bonnes œuvres. Puis à s'encourager, à se fortifier, à avoir du courage dans le Seigneur. Comme David qui était découragé à Tsiklag avec ce qui est arrivé, mais il s'est appuyé sur l'Éternel son Dieu puis il a repris courage. On a besoin de s'arrêter et de vraiment considérer qui est notre Dieu puis c'est ça qui donne courage. Donc, je veux terminer ce matin avec l'invitation suivante. On a un Dieu incomparable, merveilleux, saint dans la souffrance. Et on en a parlé ce matin, Dieu permet la souffrance comme étant un rendez-vous. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous avez besoin de le rencontrer. Ici, à l'église, un beau dimanche matin, c'est un rendez-vous divin. Combien de personnes ont rencontré le Seigneur en venant comme ça à l'église? Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas encore personnellement Jésus comme votre sauveur. Il est là, les bras ouverts. Vous êtes rebelle? Il y a des bras ouverts devant un peuple rebelle et contredisant. Essayez pas d'être bon avant que Dieu vous sauve. Dieu sauve des méchants. Dieu sauve des pas bons, des rebelles. Vous pouvez venir à lui. Jésus ne va pas mettre dehors celui qui vient à lui. Puis vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Peut-être que vous avez dit, ouf, mes amis, mon track record n'est pas très bon. Vous allez dire, je regarde mes affaires, je n'ai pas fait confiance à Dieu. J'ai de la misère, puis j'ai peur, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Je suis amer, je ne suis pas content. Dieu a un rendez-vous pour vous en ce moment avec ce qu'il envoie. La question, c'est est-ce que je vais à lui maintenant tel que je suis? C'est pour ça que Dieu permet le mal et la souffrance, parce qu'il veut nous rencontrer là. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps, pour s'arrêter ensemble avec ta divine parole. Et Seigneur, tu n'es pas menteur, tout ce que tu dis est vrai et digne de confiance. On te remercie pour ça. Seigneur, on veut répondre par la foi à ce que tu nous as dit ce matin. On ne veut pas que ces choses tombent dans une oreille sourde. Mais Seigneur, on veut y ajouter foi, afin que tu nous transformes, que tu fasses à travers ce qu'on vit, des choses extraordinaires, des choses grandes et cachées qu'on ne connaît pas, des choses qui sont au-delà même de tout ce qu'on demande et ce qu'on pense, par ta puissance qui agit en nous, tes enfants. Et s'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, ah, qu'aujourd'hui ils puissent te rencontrer, le seul sauveur, celui qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent de toi par la foi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.